bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Les deux bandes originales. Samadi, Nagui est resté au sport d'hiver. Il est coincé dans le télésiège qu'il a fait installer à Montmartre. On vous donnera des nouvelles quand on en aura. Bref, sans Nagui, mais avec Frédéric Sigrist. Jérémy Crédville.
Bonjour.
Dominique Villa.
Bonjour.
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 Dans la dernière demi-heure, sans qu'il passe sur Romain Crédit d'Info. Et bien sûr, la tour opérateur de la bande originale, Leïla Kadour Boudani.
Bonjour à tous. Nos invités aujourd'hui dans la bande originale sont Jonathan Cohen et Jérémy Elkaïm.
Je sais pas si on va arriver au bout.
Non, je sais pas, ça devient compliqué dès le départ. Bienvenue à tous les deux.
Oui, merci.
Merci, oui, ça va ? Ça va ?
Ouais, super. Bah écoutez, on est content que Nagui soit pas là. On va pouvoir enfin parler. Et pas que mode. Me fascine Nagui en termes de mode ces derniers temps. Il pousse le bouchon.
C'est-à-dire.
Carrément les vêtements de.
Mais c'est la troisième fois que je viens ici. Effectivement, on est sur des chaussures qui commencent à être cloutées. On est sur des fantaisies et bon, bah, c'est tout à son honneur. Hein,
mais qu'il est. Ce qui est bien la preuve que ce qui coûte cher n'est pas forcément beau. Quoi.
C'est oui, c'est ça.
C'est l'idée, c'est qu'en fait, comme il n'est pas là.
On peut le tailler.
Même quand il est là.
Et il y aura des représailles. Il y aura forcément des représailles.
Ça, je vous le garantis. En tout cas, vous venez nous parler de Premières Vacances, le premier long métrage de Patrick Cassir.
Une comédie intéressante.
Une comédie.
Oui, merci pour cette tagline.
Une comédie coécrite par Patrick Cassir et Camille Chamou, qu'on retrouve également au casting avec Camille Cotin, Vincent Dedienne et vous deux, bien entendu. Mais avant de développer un peu plus le propos de ce film,
pas d'interro.
L'interro, c'est parti, les amis. On va voir si vous avez bien bossé vos dossiers. Jérémy souffre d'un mal quotidien commun. Il a ça en partage avec André Dussolier.
Le priapisme.
Les cheveux blancs, mais lui, il les cache.
Les siestes.
Non plus.
Je s'attendais pas à ça du tout.
L'acné.
Non plus.
Du vieillard.
La nausée. Il a peur des médecins. André Dussolier nous avait confié.
Il a peur des médecins.
Non plus.
Et
ah, la phobie administrative.
Absolument. Ah, oui, c'est bravo Fred.
Bing.
Ouais. Je te parle, on est quelques millions.
Qu'est-ce qui se passe?
Non mais phobie, c'est plus que je constate que je suis une brêle en papier administratif et en capacité à le faire et à en faire quelque chose. Mais il faudrait pas que je le dise trop parce que j'ai un vrai petit rapport maintenant qui s'est instauré avec mon inspecteur d'impôts.
Voilà, exactement.
Et on avance un peu ensemble.
Ah, c'est vrai.
Oui, c'est bien.
J'ai des vrais petits moments de pédagogie avec lui. Effectivement, une thérapie, oui. Il m'aide à le valoriser, à trouver le chemin.
C'est ça. Il vous coach.
Je connais son nom. Je vais pas dire son nom, mais
j'adore
Hugues.
Son
prénom, voilà. Hugues, je vous dis bonjour. Je vous adore. On se voit très vite.
Oh là là, tu viens de gagner tellement de points, mec.
Alors là,
une demi-part.
Oh, Philippe Désina, quel connard.
Il vient de gagner une demi-part.
Une demi-part.
On poursuit avec Jonathan. Jonathan, oui. Qu'est-ce que Jonathan a fait croire à ses copains d'école concernant la vie de son père quand il était enfant?
Il était espion?
Non, mais
comédien.
Bah, ça va très vite, tu vois, il y a 2 heures.
Que son père était sa mère, qu'il était transsexuel.
Non plus.
Une autre version, ouais.
Non plus.
Il était président de quelque chose?
Ça concerne en fait son métier, en gros.
Il était comédien?
Qui était auteur?
Qui était mytho?
Non plus.
Qui était réalisateur?
C'est un gros mytho, ça c'est sûr.
Douanier?
Non, c'est en lien avec une série télévisée.
Il était policier, il était commissaire.
Française, Navarro,
non, pas une série française, une série qu'on a tous regardé.
Il était mentaliste.
Colombo.
Il était mentaliste.
Friend,
il était sur un gage.
K2000.
Dallas, la petite maison de la
K2000. Ah, oui. Il faisait la voix de K2000.
Non, alors on va préciser.
Non, mais bravo déjà.
C'était Mike. Qu'est-ce qu'il faisait?
K2000.
Il était kit.
Il y avait David
Asseloff. C'était le chauffeur du camion.
C'était la lumière rouge.
Moi, je t'accorde le point,
Parce qu'il
fallait la trouver, K2000.
Il a juste regardé la feuille.
Racontez-nous.
En fait, je faisais croire que mon père fabriquait K2000 et qu'il en fabriquait pour les petits. Donc je prenais des bons de commande pour mes camarades. Je disais, ouais, mais bien sûr, t'en veux une quoi. Et voilà.
Ah ouais. Mais ça a tenu l'année, ça?
Hein? Ça quoi?
Ça a tenu. Ça a tenu l'année?
Ça a tenu, ouais, ça a tenu la semaine. Mais, mais tu sais, quand on est enfant, on croit vraiment à n'importe quoi. Et je faisais croire. Et ouais, bien sûr. Mais tu veux quoi? Une Bordeaux, une truc? Et je prenais les couleurs, les trucs.
Et,
je
croire, Bordeaux. Et vous preniez de l'argent ou pas?
2000 Bordeaux.
Ouais. Vous preniez de l'argent aussi? Bon.
Je prenais pas d'argent parce que très très vite, ça, c'est, bah, voilà, c'est je me faisais griller. Moi, j'étais un mytho grillé. Donc, ce qui après m'a fait arrêter très vite de mentir.
Elle marche pas ta bagnole.
Elle marche pas du tout. Et puis j'ai rien.
Qu'est-ce qui se passe?
Ça semble une bêtise. J'ai versé des arts. J'ai versé des arts, je me suis avancé.
T'avais un cheveu sur la langue donc, quand t'étais.
Ouais. J'avais pas qu'un cheveu, gars. J'avais vraiment. J'avais rien.
Une petite raie.
J'avais rien pour moi, gamin. C'est terrible.
Pas qu'un cheveu.
J'avais pas qu'un cheveu.
On poursuit avec Jérémy. Quel métier aurait aimé faire Jérémy?
Charcutier.
Proxénète.
Ébéniste.
Ça, je le fais, ça.
Pompier.
Non, c'est un métier où on rencontre beaucoup de monde.
Médecin?
Prostituée?
Hôtesse d'accueil?
Go-go dancer?
Inspecteur des impôts?
Je crois que je vois à peu près, mais je suis pas certain.
Éducateur?
Non plus.
On rencontre beaucoup
de monde. Au contact de vraiment
professeur. Je sais, oui.
Tous les matins. Tous les matins.
Animateur radio?
Non plus.
Ah, mais vous allez être surpris. Hein,
facteur?
Mais... Oui. Hein, facteur?
Je te jure.
Bravo, Jérémy.
Non, alors, bon.
C'est
une déclaration d'un glamour.
C'est vrai. Mais en fait, c'était plus ce que ça conduit à permettre de faire que réellement le métier en lui-même. Ah. Et je voudrais pas pour autant le dénigrer, hein, parce que je crois que c'est un métier merveilleux. Mais en l'occurrence, c'était l'idée de pénétrer la maison des gens. C'était l'idée d'aller chez eux, de les rencontrer. Non, mais c'était ça qui me. Je me disais, c'est dingue, un métier où tu peux effectivement tous les jours, hop, aller chez les gens dans leur intimité.
Ici aussi, hein.
Un peu, mais c'était un peu une parabole pour parler du métier de metteur en scène qui permet de raconter la vie des gens.
Ah ouais, c'est vraiment le facteur metteur en scène.
C'était ça qui m'amusait, ouais. Mais par ailleurs, ça a l'air dément comme métier. Hein.
Ah, c'est vrai que c'est dingue.
Annoncer les nouvelles, venir.
Ça n'existe plus. Ils n'annoncent plus aucune nouvelle. Vous savez qu'Henri, vous savez ce qui s'est passé, Henri, là. Le maréchal Ferrand, non, ça n'existe plus, ça. Là, il te donne le courrier, il fait une signature. Et c'est tu ne rentres même pas chez les gens.
Le colissimo, c'est pas.
C'est pas vrai, c'est pas vrai. Les personnes âgées, parfois.
Il faut qu'elles payent. Désormais, faut qu'elles payent.
Faut payer maintenant.
Pour ça, il y a les faux.
Pour ça, je dis, le métier a changé. Ouais, le métier a changé, tu serais déçu aujourd'hui.
Ouais, non, mais de toute façon, je suis d'une autre époque.
C'est sûr.
Mais ça reste un métier merveilleux.
Oui, je pense.
Une petite dernière question sur Jonathan.
Oui.
Jonathan a son sosie au gouvernement. Qui est-ce?
Ah oui, Mounir Majoubi.
Oui.
Mounir Majoubi, bravo Tom. Vous en jouez ou pas?
Je joue du Majoubi, oui, bien sûr. Évidemment, c'est quel bel instrument.
Une petite démo peut-être.
Eh bien écoutez, j'évite très mal, mais on s'est rencontrés parce que il fallait qu'il y ait une rencontre de sosie et il est très sympa. Voilà, je peux rien dire d'autre, il est très sympa. Et on avait fait un petit truc pour Combini. Où il faisait une interview, vous l'avez pas vu, j'imagine. Et
pourquoi tu imagines qu'on l'a pas vu? On connaît Combini, on n'est pas si vieux.
Je sais pas, je vous sens pas Combini, je vous sens plus France Inter. Voilà.
Non.
Facteur.
Ouais, je vous sens facteur. Je sens facteur, la poste. Okay, voilà.
On est plus Coréus. Ok. Ouais.
Non, mais genre, on avait fait un petit truc sur Combini où il faisait une interview et tout d'un coup, le gars lui posait la question. Vous aussi, vous trouvez que vous ressemblez à l'acteur Jonathan Cohen? Et c'était moi qui répondais. Non, je trouve pas. Déguisé en lui. Ça a duré une seconde. Voilà, c'est adorable. Je vous conseille de le voir.
C'est intéressant.
C'est intéressant. Vraiment, ça valait le coup de prendre la parole. Merci.
Voilà, merci beaucoup. Jonathan, on vous recommande en revanche d'aller voir Premières Vacances, donc ce premier long métrage de Patrick Cassir qui sera en salle dès mercredi. L'histoire de trentenaires parisiens, Marion et Ben, font connaissance sur Tinder.
Ouais.
Ils se voient et rapidement, ils décident, bizarrement, de partir en vacances après, je sais pas, un ou deux rendez-vous.
On va dire un rendez-vous.
Ouais.
C'est un peu ces décisions prises comme ça parce que sous le feu de l'action, parce que le petit coup de foudre, ils ont un petit coup de foudre, on va pas se mentir. Et mon personnage, ça fait 30 ans qu'il part avec ses parents, enfin du moins à Biarritz, maison de famille.
À l'hôtel à Biarritz.
Voilà, donc je pense qu'il est dans une phase de sa vie où il a envie de changer les choses. Et elle est toujours partie dans des endroits un peu improbables. Et du coup, ce petit coup de foudre fait que ils ont envie de tenter cette aventure
ensemble.
Folle. Exactement.
Elle doit partir à Beyrouth, vous à Biarritz. Ils décident de prendre une destination à mi-chemin et ça tombe sur la Bulgarie.
La Bulgarie, très beau pays. Salut les Bulgares. Sans, non, il y a des belles choses.
En tout cas, pays intéressant.
Pays intéressant, c'est vraiment un, on va dire un millefeuille. C'est plein de couches et sur couches, c'est étonnant
c'est
à chaque couche. C'est un oignon. C'est un oignon. Et à la fin, tu pleures. Non. Respect aux Bulgares. À Bulgarie, non, il y a des coins magnifiques. Il y a des coins, effectivement, bon, où quand tu vas dans des hôtels, il y a marqué interdit aux armes. Et ça, je comprends. c'est plutôt un très bon point et rassurant.
Parce que nos deux personnages partagent une vision assez différente des vacances. Absolument. Là, c'est un test grandeur nature pour voir si la relation va pouvoir exister et tenir, une forme de compatibilité amoureuse.
Yes.
Sauf que vous, vous incarnez un commercial qui a toujours des médocs sur lui, qui a même du bain de bouche.
Un gars qui est prévoyant.
Hypochondriaque, presque.
Il a un gros problème avec l'hygiène. Il aime le confort.
Il a un désir d'hygiène.
Il a un
problème d'hygiène.
Mmh. Non, t'as raison, parce que on pourrait l'entendre comme ça. Ouais. Merci de le rectifier.
J'ai peur que ce soit révélateur, en fait, Jonathan.
Oui, c'est révélateur sur moi. Moi, j'ai un problème d'hygiène. Ouais. C'est pour ça que tout le monde est à peu près à un mètre de WAM. Et vous avez bien raison.
T'as un bain de bouche, t'en as ce matin?
Non, mais j'ai un bain de pied, si tu veux. C'est un peu moins délicat. Un bain de pied, le mec a une bassine. C'est bim. Ah, c'est de l'argile. Et donc, du coup, qu'est-ce que je veux dire? J'en étais où, là?
Il y a des liens hypertextes
sur l'opposition des personnages.
On est sur une opposition des personnages.
Oui, Jérémy est là.
Il a un vrai souci d'hygiène. Et donc, désir. Il aime le confort, elle est beaucoup plus aventurière, elle est beaucoup plus chez l'habitant, Airbnb, tout ça.
Envie de découvrir des cultures.
Exactement.
Elle s'émerveille de tout.
Même du plus moche. Et du coup, voilà, cette rencontre fait que, il y a pas mal de comédie.
Et il y a.
J'ai fait une fin à la Johnny. Il y a pas mal de comédie. Au final, oui, j'aime beaucoup ce Fabrice.
Et autour du personnage incarné par Camille Chamou, il y a une bande de copains, parce qu'initialement elle devait partir en vacances avec son duo de copains, Camille Cotin et vous, Jérémy El Kaïm, mais finalement elle les abandonne parce que Beyrouth, c'est un peu destination hype. Vous incarnez vous aussi une autre forme de vacances, en
oui.
fait.
En tout cas, oui, complètement. En tout cas, un truc qui était extrêmement joyeux, je dois vous dire.
Oui, dites-nous.
À propos de premières vacances, d'abord c'était la rencontre avec Jonathan. Jonathan, regardez travailler Jonathan, cette gâchette invraisemblable. L'homme le plus drôle d'Europe. Pourquoi j'ai dit d'Europe?
Je pourrais dire
quoi? Du monde francophone?
Ouais, la
francophonie.
Attention, il y a des vrais humoristes à table qui sont vraiment très très drôles.
Ah, oui.
Ils sont certainement beaucoup plus drôles que
non.
Plein de gens.
Ah oui?
J'aurais pas qui, mais
il s'agissait pas de faire un concours. Non, écoutez, moi il m'a été demandé de montrer certaines parties de mon corps.
Alors il faut le dire, oui.
À partir du moment où on me demande ça dans un film, je veux dire, bon, c'est comme une sorte de gage de qualité, vous voyez. On peut l'estampiller, oui, c'est comme une sorte de macaron.
D'auteur.
Voilà, comédie avec partie d'anatomie d'El Kaïm.
C'est
très joyeux, c'est très drôle. Il y a en fait un truc qui est pas mal et qui, dans le paysage des comédies, me semble essentiel, qui est que, au fond, non seulement c'est drôle, mais en plus de ça, ça raconte une chose à laquelle on peut tous s'identifier.
Absolument.
Le rapport qu'on a aux vacances. Non, mais pour de vrai.
Oui.
C'est un vrai truc. Et je crois que.
C'est un comédien ou
que c'est autobiographique, mais. Qu'il y a un truc assez personnel au
c'est
metteur
hyper
en scène.
Référencé. Oui.
Et on le sent, ce truc-là. Et eux, ils ont mis une vérité. Moi, je les voyais jouer, là, Jonathan et Camille. C'était, mais merveilleux, leur rapport. Ils étaient là, ils se chicoraient pour de vrai. Enfin, c'est vrai.
Ouais,
ça se chicorait un maximum.
Il y avait de la chicane. Ça chicorait,
un peu de vérité de la comédie. Bon, c'est
et de l'impro aussi, et de l'impro beaucoup.
Oui, il y a eu de l'impro beaucoup en répétition parce que en fait, on a passé au tamis un peu toutes les scènes.
Oui. C'est un peu votre marque de fabrique, l'impro. Hein.
C'est un peu ma marque de fabrique. C'est quand il y a marqué G sur un film, c'est du Joe. Et du coup, il y a de l'impro. c'est assez formidable, l'impro, parce que ça permet
d'apprendre des textes.
Exactement, déjà. Et ça, bien sûr, de savoir que je ne sais pas lire, tout simplement. Mais, donc, du coup, d'envoyer tout le monde, je fais, mais on va l'improviser. Et du coup, ça permet d'être au plus proche des situations.
Ouais. Et Patrick Cassir était assez.
Il est assez friand, mais ouais. Camille aussi, du coup on a pu aussi s'adapter à plein de scènes parce que tu t'adaptes un peu au décor, quand tu écris tu n'as pas conscience de là où tu vas tourner, des gens avec lesquels tu vas tourner, donc on improvisait en temps réel avec ce qu'on voyait, et ça c'est toujours agréable et bien pour le film.
Est-ce que c'est des personnages qui ont été écrits pour vous ou pas? Un peu.
Pour Jérémy, oui.
Ouais, alors, honnêtement, j'en sais. Il est venu me voir très gentiment après avoir écrit son scénario. Donc après, je sais pas, je lui ai pas posé la question. Mais ce qu'il dit, en fait, c'est quand même un vrai truc qui fait pour moi un distinctif dans le paysage des comédies. Mm-hmm. L'idée de malgré tout chercher à incarner. Je le dis, non, mais ça paraît sérieux, mais pour de vrai, ça change des choses. C'est-à-dire de se dire, on va dans une comédie, mais c'est pas.
Ah, mais bravo.
Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je crois que c'est filmé. Donc c'est
des films. Il faut être précis.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'incarner réellement dans une situation et se l'approprier comme ils le font, effectivement. Ouais. Là, ils parlent d'improvisation, mais au fond, c'était pas tant que ça improvisé, parce que les sujets, les oppositions, elles étaient celles du scénario. Mais après, c'est de faire en sorte qu'on soit avec eux, qu'on puisse s'identifier, que ce soit incarné. Donc, c'est une autre façon d'envisager la comédie. Et c'est, je dois dire, une façon merveilleuse.
Oh là là, Jérémy, bah merci.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais en effet, c'est pas une comédie romantique bateau, parce qu'il y a du fond, c'est pas simplement la situation pour faire une blague. En effet, on a parlé de l'antagonisme des conceptions sur les vacances, celle qui part à l'aventure et qui, à la limite, s'en moque d'atterrir n'importe où, du moment qu'elle puisse rencontrer l'habitant. C'est même un peu caricatural comme ça.
Harry Habitant
aussi, ses vacances authentiques.
C'est pas dans le film, mais bon,
vacances authentiques. Et puis, il y a vous qui rêvez plutôt. De vacances un petit peu plus stéréotypées, à la limite c'est le all inclusive dans un hôtel quoi.
Ouais, c'est ça, c'est le confort avant tout, c'est le transat, c'est avoir c'est ça le meilleur lit, les meilleurs trucs, le spa, les petits chaussons. Bah ça c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment un truc du réalisateur Patrick Cassir qui est très très comme ça. C'est une comédie qui est Camille et Patrick sont ensemble dans la vie.
Ah bon, on le dit ça quand même.
Oui, on le dit. Moi
oui,
je
vous l'avez dit.
Dire,
ah, c'est le 31 décembre, on peut balancer.
C'est le 31 décembre, les gens sont certainement au saumon fumé là et ils ont besoin d'avoir des vraies infos.
À 11h.
Ouais. Bah, je commence à être dans la vie, mais tranquille. Et donc du coup, oui, c'est un peu leur vraie vacances. Ils sont partis en vacances dans un hôtel de luxe. Ils se sont fait, ça a été un peu horrible parce qu'ils se, voilà, ils se sont ennuyés. Ils trouvaient ça, ils se sont même embrouillés avec des gens. Il y a une scène du film, notamment avec la Russe, qui est une vraie, qui leur est arrivée. C'est du vécu où Camille a carrément balancé le sac de cette dame-là dans la piscine pour une histoire de transat. Du coup, il a dit oui, c'est un terrain de comédie, il faut absolument écrire un truc. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ça part beaucoup de leur vécu. Et aussi, moi, ce que je trouve assez génial dans le film, c'est pour ça qu'on a tous dit oui et qu'on a voulu tous partager nos expériences, c'est que les premières vacances pour un couple.
Ouais, c'est dur.
C'est excessivement dur. On est fragile. Moi, je suis très fragile. Moi, déjà, je suis quelqu'un de fragile.
Sur le plan physique ou sur le plan mental?
Regardez, voilà, j'ai une petite tremblotte. Parce que il est très tôt. Non, mais on est fragile parce que on se connaît pas, parce que on va passer 24 heures sur 24 ensemble. C'est horrible. On est absolument pas naturel. Parce qu'on veut se faire un peu passer pour quelqu'un qu'on n'est pas.
Au début, en tout cas, oui.
Oui, au début. Ah, tiens, tu veux visiter ce petit musée? Et tu dis oui parce que t'as envie de faire plaisir. Oui, mais au final, pas du tout. Ouais. Et on est plein de ces choses. Et puis l'ennui, il est différent. L'ennui, il est beaucoup plus lourd en vacances parce que tu dis ça y est, elle s'ennuie, elle se fait chier, c'est mort. Donc c'est plein de petites choses comme ça.
Alors qu'après, on s'en fout.
Et on trouve ça. Il a raison.
Le rapport aux commodités.
On en parlera avec notre spécialiste commodité qui viendra nous voir.
Thomas Dôme, qui est vraiment un spécialiste, qui travaille pour. Comment ça s'appelle, les toilettes?
Non, Thomas Dôme, il est.
C'est une vanne loupée. Ouais, Jacob Delafont.
Première vacances est sortie après-demain avec Jérémy Elkheim, entre autres, et Jonathan Cohen. Alors, Tom, première vacances va être un carton. On est d'accord, évidemment. Oui, mais pourquoi?
C'est fou, vous me posez les questions aussi con que Nagui.
Ça finit par déteindre, quoi.
Vous avez vu une caravane, une boule de cristal dans le studio, et c'est pas comme ça qu'on appelle Albert, pourtant. Oui, évidemment, les premières vacances pour un couple, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, ce soir, c'est le réveillon du Nouvel An, et le premier réveillon du Nouvel An en couple, il est pas simple non plus.
C'est vrai.
J'accepte même l'épreuve de vérité, parce que jusqu'à présent, t'as fait des fêtes avec elle, c'était sympa, mais là, c'est du sérieux. Le Nouvel An, c'est la soirée qui peut faire exploser un couple. À côté, un samedi après-midi chez Ikea, c'est oui et le crayon magique. Déjà parce que le Nouvel An, c'est la soirée où tu vas minimum jusqu'à minuit. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est ça vrai. S'appelle un lundi soir. Et surtout, c'est la soirée qui n'a pas de limite où personne ne bosse le lendemain. T'as zéro excuse. Donc, faut pas déconner avec le premier de l'an. Déjà, par exemple, avec qui le faire? La question se pose vers début décembre, mi-décembre. Là, faut être très réactif quand elle demande ce que tu veux faire pour le réveillon. Faut grossir le trait, faut en faire des tonnes, quitte à mentir un peu. Et bah tu sais quoi, bah moi il y a une tradition millénaire dans ma famille où on perpétue cette symbolique. Chaque génération risque de voir la colère des dieux s'abattre sur nous. Ce rituel sacré n'est valable que pour les hommes, hein, et consiste à passer la soirée avec ses potes, à jouer à FIFA et à boire de la bière. Voilà, j'y peux rien, c'est la tradition. On peut pas y échapper. Non, mais c'est vrai. Si elle est pas convaincue, faut engager des négociations. Mais je pense que même Édouard Philippe face aux gilets jaunes, il avait plus de marge de manœuvre. Parce qu'il y a toujours des mecs pour te dire, ouais, mais finalement le 31, c'est un soir comme un autre. Ce mec-là, faut lui faire beaucoup de mal. Ce mec-là, c'est un enculé. C'est le même mec qui te dit que le meuble Ikea, tu peux le monter sans la notice en 10 minutes, que la montagne, l'été, c'est fabuleux, et que la voiture électrique, c'est l'avenir. Résultat des courses, j'ai pas de porte à ma penderie depuis 3 ans, j'ai fait une rando de 4 heures à ramasser tous les déchets des skieurs un 15 août, et pour aller voir des potes en Bretagne, j'ai mis 3 jours tellement c'est long à charger une voiture, et il n'y a pas d'autonomie sur les bagnoles électriques. Donc voilà, le 31, c'est pas une soirée comme les autres. Non, c'est le seul soir de l'année où Patrick Sébastien, il te fait un décompte pour te dire qu'il va être minuit, et ça change tout. Hein. Une chose est sûre, jamais de ma vie je ferai un nouvel an au resto, je vois pas l'intérêt. Les menus, ils coûtent le prix d'un pass Navigo 5 zones à l'année. Tout ça pour manger un foie gras trop chaud et un saumon trop froid, avec des serveurs qui font la gueule parce qu'eux, ils peuvent pas faire la fête avec leurs potes. C'est pas ma vie.
C'est vrai.
Voilà. Le jour de l'an, les mecs, ils te servent une mousse au chocolat. Ils appellent ça une émulsion légère de fèves de cacao. Et c'est dégueulasse. Hein, ça s'appelle une introduction non consentie dans un orifice non prévu à cet effet.
Oh
voilà. Donc pour moi, émulsion légère. Pour moi, il y a une règle 31. Tu choisis une fête, mais faut pas changer de fête parce que, tu sais, on fait, il y en a qui changent parce qu'on fait minuit dans une fête et on bouge vers minuit et demi, une heure. Et en fait, quand tu changes de fête, on dirait qu'il s'est passé 3 ans. Tu quittais, il y avait une belle ambiance. T'arrives dans un cimetière de bière avec des mecs défoncés qui dansent sur début de soirée, mais au premier degré. Tout le monde est à 2 grammes. Toi, t'es pas du tout dans le même mood. Donc là, soit tu décides de faire une remontada digne du Barça, soit tu te casses et tu finis sur le bêtisier de Karine Ferry. Mais là, t'es dans une grosse impasse. Vous voyez, le 31, finalement, c'est pas une soirée comme les autres. Et si vous êtes en couple depuis peu et que votre mec vous dit, t'inquiète pas, ce soir, on improvise. Soyez pas surpris, parce qu'à mon avis, vous allez finir avec Patrick Sébastien. Bonne journée.
Merci d'être venu.
Bravo. La bande originale. C'est France Inter. Et vous, vous prévoyez quoi pour votre réveillon ce soir? Alors, en amoureux...
Je vais aller à Bruxelles, moi.
Ah bon? Ah,
ouais, je vais aller à Bruxelles fêter le jour de l'an avec ma compagne.
C'est votre premier réveillon?
On va aller voir le Mannequin Peace. non, parce que, ouais, c'est notre premier rendez-vous, réveillon ensemble. Et je suis d'accord avec toi, Tom, c'est pas rien. Parce que tu dois l'assurer, ce réveillon, parce que moi, c'est toujours une angoisse, le réveillon. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? En même temps, ça nous fait chier d'être obligé de faire la fête. Et d'autant plus en couple. Parce que tu te sens un peu responsable de la soirée de l'autre d'une certaine manière et donc voilà.
Et puis parce qu'il va vous, elle va vous voir sous votre véritable jour si vous êtes avec vos copains, c'est-à-dire que
oui, on peut déjà déjà elle va me voir sous mon véritable jour. Le jour de l'an, ouais. Non, pas encore. Le jour de l'an à minuit, gars, je me transforme. Voilà.
C'est un gremlin.
Le jour de l'an. Mais c'est, je suis totalement d'accord avec Tom sur ça. C'est vraiment
petite pression.
Et vous, Jérémy?
Alors, écoutez, je dois vous faire un aveu. Je suis pas hyper fan des fêtes où il y a injonction à s'amuser.
Ouais.
Le 31 en fait partie. Et donc, si je vous décrivais réellement quels sont mes 31 depuis plusieurs années, vous seriez peut-être un petit peu triste.
Faut faire la bonne année, mon cul.
Non, ça doit être où j'emmène mes enfants voir un film, genre à l'Action Christine, dans des vieux cinémas. On va voir Un Américain à Paris avec Cary Grant. Et puis ensuite, on va manger juste en tête à tête et on va se coucher.
Il est
23h30. Un truc comme ça. Donc, et puis, on se réveille tôt.
Ça les rend pas tristes, les enfants?
Ils sont pas non plus en âge de complètement aller se déchaîner sur la piste de danse.
14, 16. Dans certains pays, à 8-9 ans.
Ils ont 22 et 23.
Deux salles, deux ambiances, comme dans Premier Amour de Patrick Cassir.
Premières vacances, mais Premier Amour, je te l'accorde aussi.
Il y a plusieurs lectures.
Je vous ai dit, 5000 feuilles.
C'est comme la Bulgarie.
Lui aussi, quelquefois, il fait 1000 feuilles. C'est Jérémy Crêteville pour Saint-Rôme.
Oui,
Jérémy.
On va pas y couper, hein. 5, 4, 3, 2, 1, bonne année.
Ouais.
Et oui, bonne année à tous ces connards qui font le décompte trop tôt. 5, 4, mais Julien, il est 22h30. Oh, ça va, je déconne, tu vas voir ma bûche. C'est pas Noël, Julien. Ouais, c'est pas ma bûche. Ouais, les champagnes. Bonne année à celles qui se tromperont de côté en te faisant la bise à minuit et qui reculeront très vite leur tête au dernier moment en rigolant. Bonne année à ceux qui ont tenté un smack en faisant exprès de se tromper de côté et qui se prennent leur premier vent de l'année à minuit et 12 secondes. Bien fait pour ta gueule, Julien. Bonne année à ceux qui ont dit, 2018, année de la bite, 2019, année de la meuf, et qui étaient très tristes en 2014 et 2015. Bonne année à ce bon vieux ringard qui ce soir en partant va te dire avec un clin d'œil « l'année prochaine », alors que tu le vois mercredi. Bonne année à ce numéro inconnu qui t'envoie un message en te souhaitant joie, bonheur et beau projet. Ça fait 4 ans qu'il te l'envoie et 4 ans que tu ne sais pas qui c'est. Alors que peut-être il t'a dit « à l'année prochaine » et que tu le vois mercredi. Bonne année au soldat inconnu, qui est le seul soldat que je connais. Bonne année à ceux qui ont dit « que je connaisse ». Bonne année aux chauffeurs de bus qui se disent bonjour quand ils se croisent, aux conducteurs de TGV qui n'ont pas le temps de faire la même chose. Bonne année aux coiffeurs qui pensaient avoir beaucoup de clients en appelant leur salon prix attractif. Bonne année aux sages-femmes qui sont parfois des hommes, aux serveurs qui, chaque fois qu'ils te disent « j'arrive », partent. Aux policiers qui, le jour, embarquent des gilets jaunes alors qu'ils doivent en porter un la nuit pour les contrôles routiers. Bonne année aux CRS qui, adultes, lancent encore de l'eau sur des gens. Aux retraités couchés depuis 22h30. Aux hôtes et hôtesses de caisse qui disent « vous avez la carte de fidélité ?»« Non ?»« Oh, je vous la fais, elle est gratuite. » »« Non, merci. » Aux orthophonistes qui reçoivent des dyslexiques et qui leur demandent d'écrire leur pathologie. Aux athées qui deviennent croyants quand leur avion fait des mouvements pas prévus. Bonne année aux gens qui veulent te persuader que tu connais des gens que tu ne connais pas. Mais si, Charlotte là, mais la brune, tu connais qu'elle? Non. Bonne année. Bonne année aussi à ces génies du marketing qui ont trouvé le nom des biscuits Gerblé.
C'est vrai.
C'est sans doute les mêmes qui ont donné le nom à l'eau et par. Prix attractif. Bonne année à ceux qui font 3 stations de métro en métro et qui prennent les escalators afin de se rendre en salle de sport pour aller marcher sur un tapis de course. Bonne année à ceux qui klaxonnent dans les bouchons en pensant que ça va marcher. Bonne année aux bébés qui pleurent quand ils sont fatigués. T'es fatigué? Eh ben dors. Aux parents qui comptent jusqu'à 3 pour calmer leur enfant. Il se passe quoi après? 4. Moi, je compterai jusqu'à l'infini, rien que pour les faire chier. Bonne année à ceux qui mettent la clé USB du mauvais côté, qui la changent de côté et qui se rendent compte qu'en fait, au départ, c'était le bon côté. Bonne année à ceux qui oublient la pièce jointe, à ceux qui répondent à tous. Bonne année à ceux qui poussent les portes marquées tirées. Bonne année à ceux qui disent au jour d'aujourd'hui. Bonne année à la bande, bonne année aux auditeurs, bonne année aux commentateurs de vidéos. Moi, pour ma part, en 2018, j'ai intégré France Inter et on m'a désintégré sur les réseaux. J'ai fait vivement dimanche à mercredi. J'ai oublié les paroles, n'en oubliez pas les paroles. J'ai joué chez moi au Splendide de Lille. Je suis devenu propriétaire, je me suis paxé, j'ai eu un enfant. Et tout ça, c'était même pas dans mes résolutions de l'année. Alors je n'attends rien de celles qui arrivent. Enfin si, je n'attends qu'une chose, que ça soit une bonne année.
Allez, bravo.
France Inter. La bande originale.
J'ai peur qu'on l'ait loupé, que ce soit passé un petit peu trop vite. Est-ce qu'on pourrait réavoir, Jonathan, votre imitation du TGV? Merci Jonathan Cohen. Jérémy Elkaïm, première vacances, ça sort après-demain, mercredi 2 janvier. Miroir, Giorgio, sur France Inter, dans la bande originale. On est ensemble jusqu'à 12h30.
Regarde ces apparts qui s'illuminent, combien de ces familles se font du mal. Regarde le petit con du square, il repousse le plus possible la fin du match. C'était au-delà de mes limites, les cris de mes parents et le son du casque. Repêché par la musique, le modèle familial au fond du lac. Est-ce que nos mères ont le salaire qu'elles méritent? Est-ce qu'on est les gosses qu'elles rêvaient d'avoir? Quelle vie de devoir laver les vitres, de ramener du linge neuf au parloir. Très tôt elle côtoyait les flics, sur toi et ton frère elle a élevé la voix. Plein de fois elle nous a vu rentrer Yves, t'étais trop bourré, tu l'appelais papa. Ma mère c'est la même et je l'ai trop fait saigner, trop peu aidé, j'étais jamais là. Je préférais la cité, les microbes de la favela. Tester ce que j'avais dans le ventre, avec des mecs qui avaient plus rien à perdre. Certes je n'ai pas de leur monde, mais qu'est-ce que j'aurais fait pour un salaire. Y'a tout qui se mélange dans ma tête et mon corps. L'amour, la haine, mes raisons et mes torts. Mes joies et mes peines. Fini l'époque où j'étais plus jeune et je courais dehors. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. À 19 ans, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. J'étais dans le froid sans savoir.
Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. Qu'est-ce qu'on va faire de nos sacs manqués? Eh les gars, je suis désolé pour toutes les fois où je me suis absenté. Ouais c'est ça, j'ai pensé à vous mais j'ai pas rappelé. M'en voulais pas, entre le bien et le mal je me balançais. Et en dessous y'a le vide, le tribunal. On sait bien que nos valeurs sont discutables. J'ai vite lâché les cours, les diplômes c'était pas pour moi. Les études c'était pas pour moi et je serai jamais leur allié comme Saruman. Je préférais le rap et découvrir l'amour. Je voulais New York, c'est plus grand et ses tours. J'ai eu le TGV et les allers-retours. Parents divorcés, du sang sur mon parcours. Y'a tout qui se mélange dans ma tête et mon corps. L'amour, la haine, mes raisons et mes torts. Mes joies et mes peines. Fini l'époque où j'étais plus jeune et je courais dehors. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir.
Giorgio, miroir. Sur France Inter, dans la bande originale. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi avec Jérémy Elkem et Jonathan Cohen pour Première Vacances qui sort après-demain, mercredi 2 janvier.
Ouais. C'est pas possible.
Alors ça, c'est tout Jérémy. Là, ça.
Le matin, il mangeait bien.
Petit bruit, comme ça. Voilà.
Ouais, c'est Camille Chamou ponctué. Dans la chambre, en fait, dans le film.
Oui, sacré parce que... Camille.
C'est bien d'avoir lancé comme ça le sujet.
Mais, et t'as d'autres sons? Ouais, bien sûr. Bah, moi, il suffit d'appuyer sur les boutons.
Non,
et ça change.
C'est bon.
On va
faire l'économie de ça.
Mais ça joyeux réveillon à tous.
C'était un bateau que je m'y mets avec la
bouche. Parce qu'on n'a pas précisé que dans ce film, Première Vacances, il y a aussi un événement qui peut arriver quand on part en couple, c'est que l'un des deux soit malade. En tout cas, que la gastronomie entraîne des difficultés de digestion.
Tu as absolument raison. Je pense que très peu de comédies s'y sont frottés parce que bizarrement,
Pataya s'y était frotté un peu.
Ouais, mais d'une manière, ils sont plus frottés carrément. Oui, ils ont nagé dedans. On leur fait un petit clin d'œil d'ailleurs. Non, en fait, c'est l'intimité. Non, en couple, surtout dans les premiers temps,
tout le temps.
À un moment donné, tu lâches un peu la bride. T'as raison, moi je
jamais.
Je pense qu'il faut 5-6 ans. Ça doit être un contrat de 5-6 ans avant de commencer à rentrer dans cette intimité-là et dire ouais, c'est bon.
C'est très relatif.
Mais les débuts sont très délicats. C'est vrai que c'est très relatif.
J'aime bien ton envie de généraliser.
5-6 ans, voilà.
Moi, je suis froid.
Jérémy, n'est pas d'accord du tout.
Moi, c'est jamais. Je ne sais pas de quoi on parle.
Mais à un moment donné, il faut arrêter d'occulter ces choses-là. Ça fait partie des choses de la vie, même si je pense qu'il faut. C'est délicat.
Voilà, touriste en vacances, les premières vacances, c'est compliqué, quoi.
Mais oui, surtout qui s'est pas trouvé dans cette situation, voilà, à mettre de la musique, à faire croire qu'il prend sa douche ou à dire moi je vais faire un tour total, il va vraiment à l'autre bout faire sa petite affaire. Et du coup on en a parlé,
c'est un petit bazar. On en a parlé
dans ce film là ça fait partie d'une très belle séquence de grimpade,
une séquence documentaire
sur ce thème là et voilà, c'est vrai que de pas en parler, c'est ne pas être dans le sujet d'une certaine manière,
un peu hypocrite.
Ouais.
C'est ça que tu
vouloir cacher des choses à notre public, et ça je suis pas pour
ça, mais ça c'est non.
Mais là-dessus encore il y a plusieurs niveaux de lecture et voilà, il
faut le millefeuille, encore une fois on en revient sur ce gâteau qui est merveilleux.
Millefeuille avec ce sujet, ça devient
c'est compliqué.
Non mais pas que ce sujet, le couple est un millefeuille.
Pardon, toi pour moi.
Merci.
L'altérité, tu veux parler de l'altérité?
On va parler
musique, la bande originale de vos vies, les étapes marquantes. On commence dans les années 80 avec vous, Jonathan Cohen, vous écoutiez ça.
Maintenant.
T'as vu, on a fait les mêmes claquements de ça.
Vous êtes bons, hein.
C'est des siamois séparés, en fait.
Mon fils m'a battu avec Daniel Balavoine.
On est dans les années 80.
C'est ça, mon Dieu.
C'est mon fils, ma bataille.
Si on devait parler de votre enfance, Jonathan, vous êtes né en 80,
entre autres.
À Paris, vous avez grandi à Pantin, je crois.
C'est ça, ouais. 93.
Et si vous deviez faire un peu le portrait de cette enfance-là, vous diriez quoi?
Du beige. Un portrait... C'est une enfance, non, c'est pas une enfance malheureuse, c'est une enfance heureuse. J'ai pas été gâté, par la nature. j'avais un physique assez difficile.
Ça a bien changé, Dieu merci.
C'est vraiment une période, Pantin. C'est beaucoup les transports en commun. C'est le 147, c'est le 247, c'est le 105, pont de Bondy. C'est des marches d'un quart d'heure pour aller à l'école après avoir pris deux heures de bus. Et Mais c'est une période, voilà, c'est mon background, quoi, c'est là d'où je viens.
Florence Foresti dit de vous que votre talent, votre génie dans l'impro réside dans le fait que vous avez dû passer beaucoup trop de temps tout seul dans votre
c'est
chambre.
C'est vrai. Elle a absolument raison, j'étais fils unique. Je le suis toujours d'ailleurs, ça n'a pas changé. Je suis fils unique, donc c'est des heures passées dans la chambre en train de me battre contre 250 Yougoslaves qui m'attaquaient pour une histoire de drogue que j'avais mis. Je m'inventais des histoires, jouais avec mes bonhommes, j'avais fait un pistolet à base de flûte et d'un cintre peint à
pince. Une mitrailleuse.
Donc qui devenait une petite mitrailleuse.
Ouais.
Et je me faisais mes petites stories. Mais oui, c'est beaucoup d'heures passées seul dans ma chambre.
Et vous devenez commercial, vous venez des fenêtres.
Très beau raccourci.
Ouais.
Voleur. On est sur le pont été, mais direct. Bah, voyager dans le temps très vite avec vous.
Ouais, c'est ça. J'essaie de faire un peu les grandes étapes. Vous devenez commercial, vous vendez des fenêtres.
Oui, entre autres.
J'aimerais bien savoir ce que ça donne un Jonathan Cohen qui vous harponne.
Avec Balavoine toujours derrière.
Non. Parce que pour vendre des fenêtres.
J'en aurais vendu plus avec Balavoine.
Pour vendre des fenêtres. Non, mais vraiment. Quel genre de vendeur vous étiez?
J'étais un vendeur, moi.
Des œufs.
Non, mais déjà,
j'ai donné la brochure.
Je jouais la personne qui ne savait, qui était sourd et muet. J'avais un petit personnage au fur et à mesure qui se dessinait, qui était celui qui commençait tous les jours. C'était mon premier jour.
Ah d'accord.
Donc j'arrivais un peu débraillé comme ça. J'avais une tête de poupon. Donc j'arrivais comme ça. Bonjour monsieur dame, voilà. Et en même temps, oui, je cherchais pas forcément à leur vendre à tout prix. Donc c'est comme ça que j'arrivais à vendre du coup.
C'était un bon vendeur?
Je pense que j'étais pas mal. J'étais pas mal parce que j'arrivais à vendre.
Ça cartonnait en fait.
Non, j'étais pas mal parce que les gens me faisaient confiance et ils avaient bien raison. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire qu'ils ont pas froid chez eux.
Ils ont quand même fait une super affaire.
Non mais en plus, j'ai un super SAV. Moi, je m'occupe de SAV de certaines fenêtres. Ah bah ouais, monsieur Cohen, mais moi en tout cas, là ça passe. Bah attendez, je m'occupe de ça.
Meilleure conclusion.
Et voilà, même époque, ouais. Jérémy, vous écoutiez.
Oh.
Trop bien.
Quel plaisir de l'entendre.
Super Tom Dreamer.
Et vous, Jérémy, c'est dans ces cool. années-là, vous êtes vous dans ces années-là.
Elle a été perdue tout de suite. Et vous dans ces années-là.
Écoutez, je vais vous aider.
Vous êtes vous dans ces années-là.
Dans les années 80,
on
donc en France.
Écoutez ça chez moi.
Même chose.
Non, parce qu'en fait, c'est quand même des morceaux qu'on subit quand on est jeune. Il y a des choses qu'on choisit, mais bon,
c'est
ça
Mike
c'était
Brand,
à la maison. Mais c'était super. Moi, j'étais. Quand je dis subi, c'est pas négatif. Moi, je vivais à Belleville à cette époque-là quand j'écoutais ça. Et voilà.
Et vous aussi, l'enfance heureuse.
Extrêmement heureuse. Je dirais que c'est. Contrario de toi, c'est l'âge d'or de ma vie, c'est le moment où j'étais au top. Tout était au maximum à 8 ans et après c'est une longue dégringolade jusqu'à aujourd'hui.
L'exagérateur de ouf.
Donc c'était vraiment magique.
Et vous avez suivi une scolarité, je crois, à mi-temps.
Pendant
une année, c'est ça, vous avez.
Je suis parti effectivement. Ouais. Alors pour
faire
des raisons un peu scabreuses. Non, pas du tout. Non, c'est. Écoutez, j'étais éperdument amoureux d'une fille qui déménageait. Et donc j'ai trouvé une solution un peu étrange pour la retrouver.
Et c'était quoi la solution étrange?
Découper le corps, enfin voilà. L'organisation. Non, quoi,
j'ai lu en fait que vous aviez été formé à devenir palefrenier.
En fait, on n'est pas formé à devenir palefrenier. J'ai été palefrenier en étant dans une formation d'apprentissage des métiers autour des chevaux et tout ça, effectivement. Et donc oui, pendant 10-12 mois, je me suis retrouvé dans une écurie de concours. Et palefrenier, c'est vraiment... c'est le lab, quoi. Enfin, c'est le plus bas. Enfin, on enlève vraiment la merde des
chevaux.
J'étais
au Moyen-Âge, là. Je suis pas le premier.
Exactement.
C'était un dur labeur, en tout cas.
Oui, c'était pas mal, ouais. Mais une période à la fois enrichissante. Hein. Mais pas mal de solitude. Plus du côté de la lecture que des blagues avec les Yougoslaves. Mais,
Je te les présente quand tu veux. Ils sont géniaux.
Alors, on passe aux années 2000. Et pour vous, Jonathan Cohen, la bande originale, c'est...
Pour moi, c'est le titre des années 2000 pour moi. On l'a beaucoup entendu et c'est vrai que je voulais symboliser plus l'époque que moi-même. Hein. Je ne pas totalement mes goûts, mais on l'écoutait tout le temps. Hein. Vous avez un souvenir de ça, j'imagine? Je suis tout seul. J'étais vraiment
seul.
C'est
vrai, cette tendance à généraliser quand même.
C'est fou ça, tu vois. Je me rassemblais.
Et milieu des années 2000, c'est un peu vos débuts de comédien. Jonathan, on vous retrouve notamment à l'affiche de Comme tu es belle de Lisa Azuelos où vous incarnez un vendeur.
Merde. c'était un vendeur de trucs de mariage là, de fiesta de mariage. Bah, c'est mon tout premier rôle, mais vraiment tout premier rôle au cinéma.
Comment vous le décrochez?
Je le décroche parce que j'avais croisé Lisa, on avait des amis en commun. Enfin, c'est marrant de dire ça quand t'as 20 ans et voilà. Mais, ouais, mais elle aimait bien ma personnalité. Elle savait que à cette époque-là, j'étais au conservatoire, donc voilà, elle était curieuse de voir. Elle pensait à moi pour ce petit rôle. Elle m'a fait passer les essais quand même, et puis voilà, je l'ai eu.
Et on vous retrouve aussi sur scène. Ça, c'était plutôt en 2007, sous la direction de Julie Brochen, qui a œuvré au TNS notamment,
au TNS,
avec des textes de Jean-Luc Lagarce, par exemple. Ça, c'est un répertoire aussi. On connaît ça. On connaît un peu moins ça de vous, en fait, Jonathan Cohen.
Mais oui, pourtant, ça fait partie de mon ADN aussi. Ces textes-là, ce théâtre. Je travaille aussi avec Martial Di Fonzobo. Voilà, sur des pièces de Spring. Springlebrug, qui est un vrai nom, qui n'est pas un nom inventé. Rappel Springlebrug.
Et puis là, vous vous retrouvez
le roi de l'impro.
Le roi de l'impro, il est fort.
Et puis vous vous retrouvez avec Dominique Valadier dans Première Vacances, qui a été votre prof aussi.
Qui a été ma prof au conservatoire. Et
ça fait quoi de jouer avec sa prof?
C'est exceptionnel. Ouais. Parce que Dominique Valadier est une actrice, mais elle est. Il faut la voir jouer. Elle est lunaire, elle est tout. C'est une immense actrice de théâtre. Moi, j'ai été la voir à La Colline, à l'époque, quoi. Et c'est dingue parce que elle a marqué tous les élèves du conservatoire en tant que professeur. C'est-à-dire qu'elle tente de saigner des choses qu'elle ne faisait même pas, elle, sur scène. Elle était, alors, faut respecter la virgule, le point. Tu la voyais sur scène, elle faisait n'importe quoi. Et c'était là, et c'est tout son génie. C'est un génie d'actrice. Donc, c'est un grand honneur d'avoir joué avec elle.
Jérémy Elkaïm, vous écoutiez.
J'ai des frissons quand ça ne télé.
C'est quoi ça?
L'émission sur la télé résonne.
Qu'est-ce que t'es fait?
Les matins de Paris.
C'est Tequila Tex.
Qu'est-ce que ça vous évoque pour ces années-là?
Alors, je dormais très très peu. J'ai un souvenir de. Ça a été. Je suis plutôt un garçon excessif. J'aime bien faire les choses et m'y investir totalement de façon obsessionnelle.
Donc, soit c'est 23 heures pour le premier de l'an, soit c'est.
Là, c'était très peu de sommeil, mais sans injonction à faire la fête. Mais en revanche, avec un fort désir de le faire. Ouais. Donc, je m'y suis investi. J'ai consacré du temps, de l'énergie et pas mal de mes nuits. J'arrivais parfois en pleine forme à l'école où je déposais mes enfants.
Oui, parce que vous avez été papa très tôt. Comment vous conciliez ça à l'époque?
Les gens sont contents de vous voir joyeux le matin à 6h sans avoir dormi.
Et les enfants aussi.
C'est de la joie. C'est qu'un apport de joie. C'est beaucoup de fêtes de danse, de légèreté, mais dans tout ce que ça a de noble.
Et qu'est-ce que vous faisiez à cette époque-là? Vous tourniez beaucoup, je crois. Il y a eu pas mal de séries.
Oui.
Clara
ça,
Scheller,
je me souviens pas
bureau.
Très bien. Ça,
ah
je,
bon
non, non. La fête, vraiment
c'est
un maximum de.
C'était un
de joie,
fiesta.
C'est quoi? C'est un passage obligé dans une vie où vous dites qu'il fallait le
je
faire
pas,
à ce moment-là?
Non, alors rien de décidé de façon préméditée, hein, mais je dois dire que. Alors si je vais même un peu plus loin, il y avait quelque chose d'un peu transgressif pour moi, parce que je ne suis pas sûr que ce soit une chose complètement valorisée par mes parents. Voilà, j'ai des parents qui sont plutôt des intellectuels, et donc il y avait quelque chose chez moi de joyeux. Voilà. Quand je disais il y a une noblesse dans la légèreté, j'y crois vraiment.
Un peu comme votre personnage dans le film, dans Première Vacances.
Complètement. Il est un peu comme ça, c'est vrai. Ouais.
Vous avez ce tempo aussi
lunaire,
un peu différent, vous êtes
mais...
un peu plus lent dans le tempo, ça crée un décalage, vous êtes sorte
c'est
de...
tout son charme.
Dandy élégant.
Tout son
qui,
charme, il est dans ce décalage-là, et dans le film, il est... Moi, je l'adore. Et j'avais envie de voir un film sur toi et Camille aussi.
De faire un spin-off.
Un spin-off, parce que tellement votre couple est démandé.
C'est que le duo, c'est Camille Cotin, pour le coup, qui a plutôt un débit mitraillette, qui est surexcité.
On est sur une calache. Hein. D'ailleurs, elle bosse avec Calache, le rappeur. Et ça fait un super duo, super fit.
Et puis, il y a ce plan en peignoir qui met tout le monde d'accord.
Ah oui.
Ouais. C'est vrai.
C'est
vrai.
Non, mais c'est,
vu, ce,
c'est
plan,
ce que je dis. Hein, c'est comme une. Il faut un label. Il faut un label pour les films. Quand je montre mon anatomie, c'est un label de qualité particulier.
Quelle anatomie on a, quelle ah sacrée bon anatomie. Ah oui, attends, allez.
Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs? Parce que moi, je l'ai montré, mais je me souviens.
Ah, vous ne l'avez pas vu?
Si,
cette...
si, pardon. Non, mais je veux dire, c'est pas à ce point-là, quoi.
Ah, c'est à ce point-là, gars. On est vraiment sur une sacoche.
Ouais, ouais.
Alors, on va.
Un gros bazar. Un gros bazar.
On peut ranger les trucs dedans.
Un petit bazar.
On est vraiment, j'ai dit, mais.
Tu sais qu'à une époque, j'ai fait l'expérience.
C'est pas mal en
à l'époque de la chanson. À l'époque de la chanson qu'on vient d'entendre, j'ai fait une expérience comme ça. Sortir le bazar dans des fêtes. Ouais. Bon, voilà, on en reparlera.
C'est des très bonnes idées, c'est nos idées pour le jour de l'an. Faites-le.
Ce soir, si vous manquez d'idées.
Bien sûr.
Justement, on a un spécialiste de la sacoche, c'est Thomas Dome, que vous êtes
présenté.
On va parler du tourisme.
Je vais vous présenter des excuses pour ce lancement.
On va parler de tourisme, parce qu'on le disait, c'est pas une comédie romantique simplement bateau. La toile de fond, c'est quand même le rapport au tourisme, et ça nous concerne tous. Vous êtes agrégé de géographie, vous venez de sortir avec Eudes Girard du voyage rêvé au tourisme de masse, c'est aux éditions du CNRS. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Est-ce que TripAdvisor, Airbnb ont révolutionné positivement ou pas le tourisme? On voit dans le film que c'est un repère important pour en tout cas
le personnage de Jonathan. Oui, il cherche un hôtel 5 étoiles sur Trip, qui est mentionné. Alors, est-ce que ces sites ont révolutionné, ils ont accru, je pense, un phénomène qui est en fait assez ancien.
Oui.
C'est que très rapidement, l'émergence du tourisme s'accompagne au 19e siècle de la sortie des premiers guides touristiques qui vont en fait baliser le voyage, fournir les hôtels qui sont potables, les sites à voir. Et donc, ce qui est, à cette époque, de manière un petit peu, simplement livresque comme ça, c'est déjà l'idée que on veut pas partir à l'aventure sans avoir quelques repères.
Oui, il n'y a pas de découverte, en tout cas. On doit savoir un petit peu quelles seront les étapes du voyage.
Très vite, ça se met en place. Les premiers guides, c'est les années 1860.
Oui.
Ouais, d'accord.
Et d'ailleurs, les guides itinéraires de l'Orient demandent même à leurs lecteurs de leur signaler ce qu'ils ont vu sur place, de vérifier que ce qui est dans le guide est vrai, et ce qui est déjà le principe de fonctionnement de ces sites, c'est d'attendre le retour
des témoignages.
Des voyageurs pour adapter leurs propositions.
Alors, en fonction des vacances, on peut établir une forme de profil sociotype du vacancier. Vous avez eu l'occasion de voir le film. Qu'est-ce que ça dit de nous, en fait, ces vacances-là ?
Oui, alors c'est, on voit bien qu'il y a deux types de voyageurs, et que le fait de partir très vite après la rencontre, effectivement, les met face à face sans qu'ils se connaissent vraiment, et celle qui était déjà habitante. Elle habite Beauboland, là, sur un canal parisien, se retrouve effectivement dans cette exigence que de rencontrer l'habitant. Même s'ils vous font un doigt d'honneur quand ils vous reçoivent.
C'est ça, merci.
Mais l'essentiel, c'est l'authentique.
C'est l'obsession de l'authentique. C'est ça, ouais.
Même si cet authentique se traduit par toutes les conditions sanitaires déplorables, la mer qui a la couleur du Coca-Cola.
C'est l'authentique.
C'est Thanos Beach.
C'est authentique.
C'est Thanos Beach.
Si c'est authentique, pour ce type de touriste, en fait, c'est le Graal. C'est absolument génial, forcément. Sans compter la chose que j'oserais pas appeler le food truck au bord du port, là.
Ouais.
C'est-à-dire la petite cahute
où on mange des patates et de l'huile.
Des pommes de terre à l'huile, en gros.
L'huile aux pommes de terre.
Exactement, c'est délicieux.
Et puis l'autre part avec ses névroses d'urbain sur l'hygiène, la propreté. Et il faut absolument que les vacances se retrouvent avec ces mêmes critères qui sont ceux de sa vie en général.
Qui le rassurent.
Est-ce qu'il y a une majorité plutôt dans le cas de l'authenticité de la découverte, qu'est-ce qu'on voit comme tendance aujourd'hui ?
Non, je pense qu'il y a une différence entre le discours, c'est-à-dire l'authenticité est un discours qui est souvent formulé, mais ce qui ne rend pas compte de ce qu'on attend véritablement. Donc je pense que ce qu'on attend encore véritablement, c'est effectivement, à travers notamment le succès de ces sites, la réservation préalable des hôtels, c'est ce qu'on attend, c'est quand même un cadre relativement formaté. Mais on vit pour autant dans l'espoir, le rêve, le fantasme, mais qu'on n'a pas envie d'approcher forcément de l'authentique, de la découverte.
On dit souvent quand on voyage et quand on rencontre d'autres touristes français que les touristes français sont les pires touristes au monde. Est-ce qu'il y a un classement ? Est-ce qu'il y a des notes là-dessus ?
Alors, je pense que c'est assez subjectif. Et puis, on a des exemples de Russes dans le film qui sont assez gratinés. Il y a une mention également
des Israéliens.
On rencontre des Israéliens, effectivement, ce type de jeunes Israéliens qui, après ou avant le service militaire, en fait, prennent un an
pour faire tour du monde.
Effectivement. Et puis, on mentionne également dans le film les Allemands en Espagne.
Ouais.
Cette idée qu'un certain nombre de retraités des pays du Nord ont littéralement, finalement, occupé certains villages ou certaines régions et créant en fait un rejet de ces touristes. Donc je pense pas que les Français soient particulièrement plus que d'autres rejetés, et sans compter que les touristes français en fait partent en proportion peu à l'étranger.
D'accord.
Par rapport à leurs homologues, les Français sont 33%, un tiers parmi les vacanciers à partir à l'étranger. tandis que les Belges ou les Allemands partent à 50% à l'étranger.
Ouais, comment on l'explique? Parce qu'en France, on peut très bien...
On est bien chez nous.
On l'explique également par le fait que la France est la première destination touristique avec près de 90 millions de touristes. C'est-à-dire le patrimoine culturel, la diversité des climats, le cadre qui fait qu'un certain nombre de Français restent...
D'ailleurs, on l'a vu dernièrement, il y a énormément de gens originaires de France qui sont remontés sur Paris chaque week-end
pour visiter la capitale.
L'attraction touristique, vraiment, on est victime de notre succès.
Et est-ce que deux personnes qui ont deux conceptions aussi différentes du voyage peuvent s'entendre finalement? Est-ce qu'on ne crée pas aussi en ce moment des séjours un peu types pour allier un peu ces deux façons de concevoir le voyage? Ça doit être une cible marketing, j'imagine.
Oui, alors le problème qui a été soulevé aussi, c'est l'idée de, si on part en vacances, de vouloir à la fois tout le temps partir en vacances ensemble. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire que c'est plus un problème de couple. Si c'est ces couples qui vivent dans l'idée qu'en fait, on ne peut pas se détacher l'un de l'autre 365 jours dans l'année, risquent effectivement d'être frustrés par le choix de leur destination. Alors ensuite, si c'est au bout d'un coup de foudre de 24 heures, comme dans le film, on comprend que ils vont pas se séparer tout de suite pour des vacances différentes s'ils ont envie, mais sinon c'est relativement difficile de le concilier, je crois. Je sais pas s'il y a des séjours qui existent comme ça, mais alors faut accepter de se séparer,
de partir séparément,
sinon c'est la frustration qui monte assez rapidement.
On parle beaucoup de destinations, mais finalement elles sont somme toute assez souvent les mêmes en fait. Quelles sont les destinations maintenant qui ont un peu le vent en poupe, parce que souvent on a envie d'être un peu originaux quand on part en vacances?
Oui, alors j'ai deux exemples en tête. Vous avez en Indonésie un village là qui s'appelle Kampung Pelangi.
Ouais.
Hein, qui est monté à toute vitesse comme site touristique à travers Instagram. C'est-à-dire que vous avez là, comme à Burano, à côté de l'Italie, vous aviez quelques façades colorées qui ont été prises en photo et mises sur Instagram. Et alors, c'est monté de manière extrêmement rapide, cette destination touristique. Et les habitants ont repeint eux-mêmes, en fait, ont généralisé et ont repeint en couleurs complètement flashy tout leur village. Et c'est devenu... un secteur de niche, mais à travers ce réseau social, une destination qui est montée énormément. Et il y a un autre exemple qui est Vik en Islande, qui est un petit village qui demandait rien à personne, si je puis dire.
Qui a été envahi de touristes.
Qui a été envahi de touristes. Ouais. En 4-5 ans, ils sont passés à 1 200 000 touristes. Et ceci parce que, en fait, c'est des destinations qui sont périphériques.
Ouais.
Donc, il y a une logique de quitter les centres et de chercher les périphéries. Mais comme chacun veut également se distinguer et atteindre ses périphéries, ces périphéries deviennent des centres.
Des centres de masse, de tourisme,
de tourisme
masse.
De masse.
Vous, Jonathan Cohen et Jérémy Elkaïm, des vacances et destinations un petit peu insolites où vous avez pu vous rendre, c'est plutôt quoi? Vous êtes quel genre de vacances en fait? Parce que finalement, on peut voir mieux qui vous êtes dans ce cas-là.
Oui.
Jonathan?
Parle-nous un peu de tes vacances.
Oui. Alors, moi.
Merci.
Non mais par exemple, tu vois, c'est vrai que ces derniers temps, mes choix de vacances, c'est horrible à dire, c'était des choix de confort. Voilà, des choix où vraiment je savais
exemple.
Que je n'allais rien
Bruxelles,
découvrir.
Vous avez un peu honte là, non?
Oui, j'ai honte. Ouais. Oui, j'ai honte.
Quel genre d'exemple? Des exemples? Ouais, soyez un peu plus précis.
Les dernières vacances, écoutez, ma femme est enceinte. Je voulais lui payer, et moi aussi, je voulais des vacances de repos. Donc on est parti, pour vous dire, j'ai même un peu blackouté la destination.
Dites ça.
Ça ressemble aux Maldives, c'est pas les Maldives, c'est...
Seychelles.
Je suis parti aux Seychelles. Eh ben, voilà. donc j'ai fait 10 jours là-bas. Autant vous dire que c'est un pays qui coûte... son petit pesant de cacahuètes. Mais voilà, c'était un choix où vraiment, il y a de la plage et point barre. On n'est pas sur la culture du pays ou les trucs comme
ça. On découvre rien, mais on va se reposer.
Non, vraiment, on découvre rien. Et à un moment donné, au bout de 10 jours, tu fais « Ah, on n'a rien découvert
!» D'accord. Et vous, Jérémy?
Moi, j'ai été ravi de la réouverture des frontières en Birmanie. J'ai pu y aller avec les enfants sac au dos.
Tellement mieux que moi partout.
Je rigole.
C'est pas vrai. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour lire des trucs. C'est vrai que moi, je me suis délecté.
C'est pas vrai, c'est pas vrai.
C'est le mec parfait.
Le mec parfait, sortez avec lui, puis c'est tout.
Non, Jérémy, une destination comme ça soit.
Je vous fais un aveu.
Ouais.
Vous avez, c'est mieux un aveu qu'une destination.
Ouais.
Je n'aime pas les vacances.
Ah, je suis assez d'accord avec vous.
Pas le jour de l'an, pas
j'aime pas l'idée de déplacer ma viande dans un pays à l'étranger. Ouais. J'aime pas l'idée d'être vacant, d'être vide. J'aime que ce soit rempli. J'aime qu'ici
donc
s'y
vous
joue
partez
des
pas.
Choses.
Non,
t'entends, il aime pas le 31, il aime pas les vacances.
Ouais. Non, je comprends. Moi, je
t'aimes quoi alors? T'aimes quoi? T'es si différent de nous.
Non, je suis obligé de me déplacer. Je me déplace avec mes petits.
Les petits loulous.
Ouais, voilà, bon, ça c'est... Parce que ils ont besoin de prendre l'air, vous comprenez. Mm-hmm. Donc, maintenant, mais je vais rejoindre des amis. Mais au fond, c'est pas le tuyau, c'est ce qu'on met dedans.
Ah oui.
On va rester non, là-dessus.
On peut revenir à la tuyau,
c'est ce qu'on met dedans. Bonne année à tous. Première vacances, ça sort après.
Et on remercie Thomas Dôme.
Oui, bien sûr.
Merci Thomas Dôme parce que...
Qui est venu avec nous.
Merci. Ouais, on a appris des trucs.
Du voyage rêvé au tourisme de masse et aux éditions du CNRS. Merci Thomas.
Merci à vous.
Merci à vous.
Tanguy Pastureau, vous nous avez rejoint.
Oui.
Vous allez intervenir d'ici quelques instants. J'avais envie de vous dire, Tanguy, je ne sais pas pourquoi. Je me sens tout bizarre, mais au niveau du bas-ventre.
Ouais, c'est rien, Daniel. C'est juste que vous êtes un homme et que vos organes reproducteurs sont en train de crever. Et ceci à cause des ondes électromagnétiques. Des études le prouvent. Les réseaux 4G, le Wi-Fi, les gadgets connectés exterminent nos spermatozoïdes.
Oh,
et on ne peut plus avoir d'enfants. Heureusement, on a Internet. C'est plus intéressant.
C'est bien beaucoup sûr. Plus intéressant. Jérémy Elkem et Jonathan Cohen sont avec nous jusqu'à midi et demi. À tout de suite. Retour de la bande originale sans Nagui May avec Frédéric Segrist.
Bonjour.
Jérémy Crédville, Tom Villa, Albert Albout, Tanguy, on en retrouve dans quelques instants. Et à ma gauche, souriante communautesse bulgare, Leïla Kadour Bounadi.
Et nos invités, Jérémy Elkaïm et Jonathan Cohen.
Oui, oui.
Première vacances, oui. Cette excellente comédie de Patrick Cassir, co-écrite par Camille Chamou et Patrick Cassir avec
et Patrick
vous.
Sébastien, il y a tous les Patrick.
Ah, c'est tous les Patrick.
Tout le monde a mis sa petite graine dedans, ouais, c'est magnifique.
Balkany.
Il fallait s'appeler Patrick sans se bouger.
Jérémy Elkaïm, vous formez une forme de duo avec Camille Cotin. Jonathan Cohen, c'est avec Camille Chamou et aussi avec Vincent De Dienne qui incarne votre frère.
Je l'adore et il est super dedans. C'est super. C'est un de ses premiers rôles au Cinoche. Et je pense qu'il va en faire plein après.
Hein. Il va en faire pas mal. Alors un frère qui est diamétralement opposé, lui pour le coup, en couple, avec un enfant, qui anticipe ses vacances, qui les prévoit.
Absolument, et pour qui c'est totalement normal, et c'est son quotidien, tout est planifié, tout est organisé, c'est la version un peu maléfique de mon personnage.
Voilà, ils savent même où ils vont déjeuner à la sortie de l'autoroute, ça aussi, ça fait partie des...
Ça symbolise pour moi la plus grande angoisse du monde, c'est de prévoir les vacances 6 mois. À l'avance. Voilà.
En tout cas, rendez-vous Tinder qui conduit à des vacances. Au bout d'un rendez-vous, vos deux personnages avec Camille Chamou décident de partir ensemble à mi-chemin entre Biarritz et Beyrouth. Ça sera la Bulgarie, dormir chez l'habitant dans des circonstances
Le début, c'est un peu Borat.
Il y a un petit côté Borat.
J'ai pas osé la faire au moment où je me suis lancé, je me suis dit, c'est une cata.
On y va.
Dans quoi je me lance, mais j'y vais, plein de billes. Oui, c'est une belle référence. Il y a un petit côté Borat, il y a un petit côté, typique, comédie de situation. Pour nous, les techniciens de l'humour.
Ouais.
Mais, oui. Et je sais pas quoi dire d'autre.
C'est ça. La pire épreuve, a priori, pour un couple, c'est de partir en vacances ensemble la première fois. Surtout quand on se connaît peu, ou finalement, c'est plutôt la meilleure idée parce que comme ça, on perd pas trop de temps.
Bah ouais, tout de suite, on sait. J'ai envie de savoir. Après les vacances, on sait plein de choses.
Non, c'est vrai, frère.
Moi, j'ai failli rompre après toutes mes vacances, hein, sachez-le. Et je le dis là devant.
Même avec tes parents.
En France.
Avec mes parents, j'ai failli rompre plein de fois. je vais vous quitter là. À 18 ans, je me barre. Moi, j'ai failli rompre quasiment tout le temps en vacances.
Ben, non,
c'est vrai.
Mais c'est la charrue avant la bœuf, c'est pas mal. Effectivement, il faudrait être vieux avant d'être jeune.
Et encore une fois.
Voilà, on peut pas lutter. Hein.
Bah voilà,
Une intervention de Jérémy Elkaïm, mais voilà.
Je me fous des complexes.
C'est hyper bien dit.
Il me fait un bisou, je le dis pour les gens qui n'ont pas la télé.
C'est à caméra. Salut les lolos.
C'est hyper bien dit, c'est hyper bien résumé.
Vrai, c'est vrai.
Et le lot des vacances, c'est aussi les engueulades, les décisions qui font pas consensus. Où est-ce qu'on va dîner?
C'est sûr.
Qu'est-ce qu'on fait le soir? Est-ce qu'on va plutôt se coucher tôt ou est-ce qu'on va plutôt faire la fête?
C'est ça.
À quel moment on fait l'amour aussi?
Bien sûr.
Il
y a vraiment deux très très bons horaires en vacances et ça on peut les trouver sur TripAdvisor. C'est quand même le matin
et après le déjeuner.
Et après le déj. avant la douche du soir, ouais. Avant d'aller déjeuner et le soir. Donc c'est quand même.
En fait, c'est tout le temps.
C'est ouais. tout le temps, ouais. ouais. Ça, c'est les premières vacances, hein. C'est pas les dixièmes vacances.
Mmh, bien sûr.
On ouais. est d'accord.
Ouais. Allez, grand temps d'accueillir Tanguy Pastureau qui va maltraiter l'info.
Tanguy, tango. Un tango avec Tanguy. Moi, je vous fais vos jingles. Ouais.
On va vous garder. Les hommes ont de plus en plus de mal, je crois. À concevoir les enfants.
Oui, Daniel, la qualité du sperme a baissé et vous en savez quelque chose, puisqu'il y a 30-40 piges, une star de la radio publique comme vous, à votre âge, aurait déjà eu 15 gosses conçus en compagnie de profs en rut qui vous auraient pris dans une ruelle du 16e en criant « Mon gros loup, faut qu'on se grouille, j'ai mes symptômes pré-ménopause, prouve-moi que je paye pas la redevance pour rien. » Et là, à quoi 65-66 ans, vous êtes loin du compte, puisque vous préférez écrire des chroniques plutôt que faire l'amour. Balzac était comme vous, résultat, sa vie n'a été qu'ennui, pas un spring break à Cancun étant jeune, pas une overdose au champi, c'était une star, il était même pas bipolaire, c'est pour ça que les gens préfèrent Loana, hein, tout ça pour qu'en 2018, on dise ouais non, Balzac j'aime pas, 130 pages pour décrire un buisson dans son jardin alors qu'en 20 minutes silence ça pousse, te refais ta terrasse, merci. Mais avant, faire un enfant c'était simple, on allait voir Emmanuel au ciné, revenu à la maison on faisait l'amour en pensant à Emmanuel, ou au fauteuil en rotin pour ceux qui bossaient chez Monsieur Meuble. 9 mois après, en avril 76, un bébé naissait, en hurlant parce que la première chose qu'il avait vue, c'était la veste en mouton retournée de son daron. Mais maintenant, ça marche plus. Pollution, perturbateurs endocriniens, fringues bourrées de teintures chimiques. Nous sommes des poubelles ambulantes. Vu de dehors comme ça, on se maintient. Enfin, certains d'entre nous. Mais à l'intérieur, on moisit. Quand un chirurgien nous opère de l'appendicite, il dit au Jonathan de referme ça, tant pis, on laisse tel quel parce que ça pue la charogne. Et donc, nous avons un sperme dont la qualité chaque année baisse. On connaît tous des couples qui ont du mal à avoir des enfants et à qui on répond qui fait. Ensuite, vous êtes debout à 6h30 du mat, vivez dans le vomi comme Peter Doherty mais sans les groupies qui couchent. Vous vous tapez Baby TV, donc au 15e visionnage de Billy Bam Bam va à la cueillette aux oranges, vous irez vous-même vous présenter chez Durex pour faire leur campagne de pub gratos. Mais les chercheurs se sont penchés sur la question, pourquoi le sperme est-il de moins bonne qualité? Pour l'électroménager, on sait, c'est parce que ce sont les Chinois qui le fabriquent. Mais les Chinois ne font pas notre sperme. Ou alors il faut vraiment arrêter la mondialisation parce que ça va trop loin. Et là, ils se sont dit, si ça se trouve, ce sont les ondes électromagnétiques les coupables. Ils ont donc pris des rats, ces petites bêtes qui, sur Fort Boyard, sont comme des connes au fond d'une amphore en attendant de se faire tripoter par une aura malagrée, ce qui, pour un humain, constitue un projet de vie viable. Mais les rats ne regardent pas la télé. Vous êtes aux 13h, Leïla. Bon, bah, on vous met un rat devant, même pas, il vous demandera un selfie. Et là, les chercheurs ont mis près des rats un PC connecté au Wi-Fi, avec un abonnement Netflix, ils ont pu regarder Ratatouille et des vidéos de chasse YouTube pendant lesquels ils ont hurlé « Va crever, enfoiré !» Puis un des scientifiques a recueilli le sperme des rats. Hein, il s'est déguisé en grosse souris et a bougé son boule devant les rats en murmurant « Ça vous dirait un dernier gruyère chez moi les gars ?» Les rats excités ont joui en pensant à Anne Hidalgo, leur chef. Hein. Dans sa ville, ils sont 4 millions. Et on a analysé la semence.
Et là, surprise Tanguy, les spermatozoïdes étaient 10 fois moins nombreux.
Oui, et c'est terrible parce que les rats dans la vie n'ont rien d'autre à faire que de se reproduire. Nous, on peut s'inscrire à la Zumba, cultiver des géraniums ou d'autres activités plus grandes public comme relire le Kama Sutra ou d'autres livres de science-fiction. Les rats, non, non. Sans un sperme de super qualité, ils ne valent rien. C'est le problème des animaux. Leur vie se résume à 2-3 sécrétions, comme les stars du X chez nous. Les chercheurs se sont ensuite penchés sur l'homme. Ils en ont laissé certains vivre leur vie avec leur portable, leur Wi-Fi. Et à d'autres, ils ont tout confisqué. Ceux-ci sont entrés en dépression. Ils hurlaient « Je suis en manque de clash sur Twitter. Comment je vais faire pour souhaiter leur mort à mes contemporains ?» Ensuite, pareil, analyse du sperme. Et là, ceux qui étaient connectés ont tué leurs spermatozoïdes. Ils sont moins viables et moins nombreux. Ce sont devenus des militants du modem de François Bayrou. C'est donc prouvé. Plus on est soumis à des ondes électromagnétiques, moins on est fertile en tant qu'homme. 2 heures avec le portable dans la poche avant du jean et on n'a plus rien qui tient la route dans son slip. Même sur le marché du trafic d'organes, on vous dirait « j'en veux pas de vos trucs ». Ça a moins de valeur que le cerveau de Kanye West. Or, des ondes électromagnétiques, on en trouve partout. Autour des objets connectés, mais aussi des fours à micro-ondes et des postes de radio. Donc, auditeur d'Inter, mon chéri, ce soir après ta bûche, tu peux déplier le clic-clac et faire l'amour à ton épouse ou à ta tante si tu habites les Ardennes belges. Car pour peu que tu nous suives chaque jour, tu es stérile. Tu es stérile. Si en plus, à l'écoute régulière de mes chroniques, tu as approché le poste de ton sexe, ce qui est une réaction normale si t'es un peu lettré et que tu apprécies l'humour fin, donc pas sur cette chronique, hein, mais en mai 2017, j'en ai fait une très brillante, ouais. Et ben, aucun risque d'enfanter,
c'est fini. Et c'est une bonne nouvelle, parce qu'on est trop nombreux sur la planète. Il faut arrêter ça. J'ai vérifié, le pays ayant le plus fort taux de fécondité, c'est le Niger. 6,76 enfants par femme. Et le plus bas, c'est le Vatican. 0. Hein, normal, les enfants ne font pas eux-mêmes d'enfants avec leur référent religieux. Donc, la solution, c'est de prendre chaque Nigérien, de le poser sur une chaise, mettre autour 4 smartphones, 2 micro-ondes, plus un poste de radio diffusant énergie si on a envie de le torturer parce qu'on est raciste. En 10-12 minutes, hop, il est stérile. Et ensuite, on fait pareil avec tous les pays où les gens se reproduisent. Moins de gens, statistiquement, c'est aussi moins de cons. Donc, vive les ondes électromagnétiques et à bas le sperme.
Bravo, Tanguy.
France Inter. La bande originale.
Extraordinaire. Ah, et un petit coucou aimable à tous ceux qui nous écoutent depuis les Ardennes.
Hein. Oui,
bien sûr. Et
évidemment. Et on revient à première vacances. Deux façons de voir les vacances. L'enfer du tourisme de masse d'un côté et l'enfer aussi des vacances dites authentique. Il y a quelques scènes où j'imagine que l'impro a été plutôt au cœur du processus, notamment la scène du canyoning.
Oui.
Je crois que vous avez passé un mauvais moment là-dessus, vraiment.
C'est un moment horrible. Alors moi, le canyoning, pour de vrai, j'ai cru que c'était du canoë. Et donc,
et non, pas du tout.
Pas du tout.
Tu sautes des cascades.
Pas du tout. Tu sautes des cascades, t'es harnaché. Et je ne m'attendais pas à ça. Et on a mis déjà une heure ou deux heures juste pour me faire
s'accrocher,
descendre
oui.
un millimètre de montagne. Et puis après, j'étais ballotté à droite à gauche. J'ai vraiment hurlé. Tous les hurlements dans le film
sont
des vrais.
C'est vrai.
Ouais. C'est un mauvais moment.
Aucun plaisir.
Zéro plaisir. Eux, ils ont beaucoup ri parce que vraiment, je hurlais. Mets-toi un peu plus à droite. Non, je veux pas mettre à droite. J'ai vraiment ces.
Un petit moment d'angoisse. Quoi.
Ouais, un petit moment d'angoisse. Et puis très long.
Beaucoup
trop long. Ouais. Voilà.
Et
cette imitation des Israéliens, elle vient d'où ? Il y a un couple d'Israéliens, il faut le dire dans le film, que vous rencontrez, deux camarades qu'on peut penser homo ou pas.
On pense qu'ils sont homo au fur et à mesure de l'aventure. Et puis on a la petite surprise.
Les petits indices.
Ils sont partageurs. Ouais. Ils aiment. Voilà.
Et donc,
il y a toujours du houmous à table. Voilà. Et du coup,
vous vous livrez une forme d'imitation.
Oui, il y a une petite imitation, oui, où je suis quand même, j'ai pris deux, trois petits joints, un petit joint qui m'a bien mis par terre. Et effectivement, je trouve qu'il parle du nez beaucoup. Et je me dis, ça serait intéressant qu'ils aillent voir un ORL ou qu'ils se mouillent pour parler normalement. Et c'est un truc que j'ai toujours pensé, ça, pour le coup.
Donc ça, vous avez demandé à Patrick Cassier.
J'ai dit, Patrick, est-ce que je peux mettre cette vanne? Parce que je le pense, je dis, c'est pas normal de parler à ce moment-là du nez. J'ai dit, mouchez-vous, vous allez voir. Mais c'est vrai, on parle du nez. Et lui, c'est un problème d'ORL. Et voilà, il m'a permis de faire cette vanne que je trouve très drôle. Voilà, dedans.
Donc ce tournage, Jérémy Elkaïm, on est d'accord, c'était un peu des vraies vacances, quoi.
Ah, total, merveilleuse. Mais il suffit juste de le regarder. Moi, j'ai l'impression qu'il faut appuyer sur play. Je rappelle que c'est quand même l'homme le plus drôle d'Europe. Du monde francophone.
Du monde francophone.
Pardon.
En anglais, je touche pas ma bille.
L'humour francophone, le roi de la francophonie et de l'humour, c'est Jonathan Cohen. Et ça, c'est d'après Jérémy. Première vacances.
Et le roi de la
ça sort après demain, on est jusqu'à
le roi de l'humour francophone.
Midi et demi. Balthazar, Entertainment dans la bande originale.
Don't deny it, but it's your own. burned in your bed. Entertainment in your sleep. Entertainment's what the world needs to keep turning around, you see. It's that face I need once more before I end up down the grave. It's the sugar that combined it makes me stick to what you say.
Balthazar Entertainment dans la bande originale.
Et on est toujours sur France Inter avec Jonathan Cohen et Jérémy Elkaïm pour Première Vacances.
Oui, oui, le 2 janvier.
Voilà, mercredi au cinéma, histoire de bien commencer l'année, quoi.
Ouais, c'est ça l'idée. Ouais, voilà. Si vous avez envie d'être bien, il faut y aller. Si vous avez envie d'être mal, n'y allez pas.
Vous voulez vivre l'année du bon pied, ben voilà, il y a un film à voir.
Et pour finir l'année en beauté, on va accueillir tout de suite Frédéric Sigrist.
Merci. Merci beaucoup, Jonathan, pour ce formidable jingle.
Ah, c'était alors, un saxo.
Oui, oui, c'est, je l'ai reconnu. Merci. Jérémy, Jonathan, je voulais profiter de votre venue pour vous rassurer. Il n'y a pas que Serge qui est mytho, ou que non. On vient d'apprendre que 60 à 80% des patients mentent à leur médecin ou ne partagent pas des informations qui pourraient être utiles à leur santé de peur de se faire juger par lui ou de passer pour un mauvais patient. Alors, moi, j'avoue, je les comprends parce que j'en fais partie. Mon médecin traitant, c'est con, je sais, hein, mais il y a des trucs que je lui dis pas. Je peux pas. Elle est gentille, hein, elle est compétente, mais voilà, je la connais pas, cette femme. Je la connais pas. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, ton médecin, tu vois, t'étais pas proche de lui. T'es déjà un médecin, c'est pas quelqu'un qui t'appelle pour savoir comment tu vas, tu vois, quand t'es pas malade. Elle te passe pas un coup de fil, tu vois, pour prendre des nouvelles de toi ou de ta famille. En plus, mon médecin, elle nous connaît. Elle s'occupe de ma femme et de mes gosses. Donc, techniquement, elle sait très bien qu'on existe. Mmh. Eh ben, je vois mon médecin, si je l'appelle pas, eh ben, jamais elle m'appellera. Jamais. Tu sens que c'est une relation qui va que dans un sens. Voilà. En plus, c'est violent, une consultation. Je dis, 2 minutes avant, t'étais dans une salle d'attente avec plein de gens qui ont tous leurs problèmes, hein, je respecte. Hein. Tu sens bien que t'es pas unique. T'es pas le seul malade dans sa ville. La pile de Paris Match vieille de 2 ans sur la table basse, ça aide pas à se sentir valorisé. La salle d'attente d'un médecin, c'est pas un lieu qui a été pensé pour toi. Ensuite, quand elle te fait rentrer, t'es dans son cabinet, direct, te demande pourquoi t'es là. Mais putain, c'est rude comme approche. Je sais pas, moi, des fois, j'ai envie de lui dire, vous pourriez peut-être être un peu content de me voir. Voilà. Mais non, tout de suite, elle te demande de te déshabiller. Alors moi, je triche toujours, hein, parce que je suis un peu pudique, donc j'enlève juste le pull pour commencer. Tu vois, j'y vais doucement, histoire de laisser monter le désir, tout ça. Et elle insiste, non, slip et t-shirt, monsieur Sigrist. Les préliminaires, tu sens que c'est pas son truc, quoi. T'sais, avec ses appareils, ensuite, elle te regarde ta gorge, tes narines, tes oreilles. Mais qui fait ça? Qui fait ça dans la vie de tous les jours? Et puis, tu regardes ça comme aucun être humain regarde tes oreilles, tes narines. Tu sens qu'elle cherche un truc. Des fois, je lui dis, mais ça suffit. Xavier Dupont-Digonès, il est pas caché là-dedans. Arrêtez. Elle prend ta tension. C'est froid. Et après ça, j'avoue, c'est vrai que si elle me demande s'il y a un autre truc qui me gêne, bah, souvent, je développe pas, quoi. Je dis non, ça suffit, quoi. Même si je fais pipi du sang, que je pousse du goudron dans mes Kleenex, je dis rien parce que j'ai pitié. Je me dis, cette affaire, c'est déjà allé assez loin. En plus, j'ai 41 ans. La dernière fois, elle a commencé à me parler de contrôle de la prostate. Je l'ai regardé, je lui ai dit, ok, mais on picole d'abord, hein. C'est vrai, une fois à l'hôpital, on m'a fait une palpation, on m'avait pas prévenu, ça, j'ai pas super bien vécu. Hein. Non, c'est vrai, je veux dire, il faudrait qu'on boive. Pareil, quand ma femme était enceinte, une fois on est allé chez un obstétricien pour une échographie. Moi j'étais content, tu vois, ma femme était enceinte, tu es bien. Le gars, il commence à nous parler de la circulation dans Paris, donc moi je réponds, je fais la conversation, et tout d'un coup il sort un engin, on aurait dit, tu sais, une de ces barres de fer sur lesquelles on fait griller les viandes de kebab. Là. Et là, zo, il met ça dans ma femme, et moi j'étais là, oh bon bah, et tu sais, je regardais ma femme, je sais pas comment réagir. Là. là, qu'est-ce que c'est normal ce qu'il fait? J'ai regardé ma femme, j'ai dit, est-ce que tu attends de moi que je frappe cet homme? Quelle est l'attente? Je sais pas. Et ma femme, elle avait envoyé son esprit loin. Elle m'a expliqué ensuite, tu sais Frédéric, nous avec les gynécos, on a déjà tellement l'habitude du côté intrusif, de la perte d'intimité, que notre cerveau, il est sur un autre fuseau horaire. Mais moi j'étais là, je peux pas. Moi j'ai besoin de secret, d'intimité. Ma femme, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, il y a des trucs que j'ai jamais fait devant elle. Et pourtant, on a vécu dans un 19 mètres carrés pendant 4 ans. On en a parlé pendant le début de l'émission. Bah, niveau intimité, mon intestin, c'était devenu le bureau des légendes. Une discrétion de tous les instants. J'ai un anus qui peut travailler à la DGSE. Non mais c'est vrai, alors c'est cru, c'est évidemment c'est cru, c'est l'heure du déjeuner, mais il faut aussi aborder des vrais sujets. On peut pas toujours être tourné vers les
plaisirs niveau de
dans cette émission. On n'en parle pas, mais quand tu commences à vivre avec quelqu'un, tu peux pas laisser ton corps s'exprimer quand il veut. Mon sphincter, c'est pas Éric Brunet, tu vois. Il sait qu'il a un temps de parole à respecter. En plus, quand tu viens de rencontrer quelqu'un, on en a parlé, tu la sacralises. C'est exactement comme les gens que je rencontre en tournée, quand ils me parlent de Leïla, bah, ils me disent, si c'est la présentatrice du JT qui les fait rêver, ils l'ont pas vu à 4 grammes à 2h du matin en train de faire le feu à cochère avec une bière à la main, tu vois. Et c'est vrai, au début d'une relation, t'es comme ça, tu vas voir des pièces de Joël Pomera, tu vas voir des expos au Palais de Tokyo, tu parles du dernier Murakami, tu parles pas de ton psoriasis récurrent, il y a une part de mystère à conserver. Et puis de toute façon, comment tu veux qu'on ne mente pas à un médecin alors qu'on passe sa vie à se mentir à soi-même? Et on ment sur sa taille, on ment sur son âge, on ment sur son poids. Moi, sur une balance, même quand je suis tout seul, je rentre le ventre. Donc, il arrive un moment, je crois qu'il faut s'y faire. Mon carnet de santé, c'est comme cette émission, c'est comme la vie, c'est X-Files. La vérité est ailleurs.
Bravo!
Merci, la bande originale.
Bravo Frédéric Sigrist, on ne peut que vous inciter à aller voir Premières Vacances. Il sera question d'intimité, c'est mercredi au cinéma avec vous Jérémy Elkaïm et Jonathan Cohen, réalisé par Patrick Cassir, coécrit avec Camille Chamou. Camille Cotin et Vincent Dedienne sont également de la partie, ainsi que Dominique Valadier. Yes. On rend hommage à la prof de théâtre.
Oui. Big up à toi.
Big up. Que va-t-il se passer pour vous en revanche dans les semaines et les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a des choses déjà tournées, qui vont sortir, ou des projets? Jonathan?
Alors, pour ma part, il y a le film d'Anne Fontaine, Blanche comme neige, qui sort en avril.
Ouais.
Voilà.
Vous jouez quoi?
Je joue un nain. un des nains. C'est reproduction des 7 nains. C'était agréable à jouer. Donc voilà, il y a un super casting. Il y a Poulvord, il y a Vincent McCain, Pablo Poli, ouais. Lou Delage qui joue Blanche-Neige. Hein, et voilà.
Parce que c'est un
Blanche-Neige érotique, un petit peu quand même. Voilà.
D'accord.
Ouais,
okay.
Y a des petites aventures avec les nains.
Ah, voilà. Vous faites partie des nains chanceux?
J'ai été content.
Enfin, la vérité.
C'est
qui
c'était un vrai plaisir. Et donc voilà. Et sinon là, je tourne une série Netflix.
Avec l'Amérique alors.
Donc avec les States. Qui va s'appeler Family Business.
Ok. Et vous jouez quoi, un français?
Avec Gérard Darmon. Donc on est deux Français. On va pas prendre la C'est une histoire de famille.
En Amérique.
À la même. C'est ça. Voilà. Entre autres, et plein de choses en écriture. Et toi, vas-y.
Et Jérémy?
Moi, je fais mon petit bazar dans mon coin.
Comment ça, votre petit bazar?
Voilà. Mais quoi comme bazar?
Il est toujours très humble.
Non, mais pas du tout. Je continue à passer comme ça, à dire bonjour à des gens sur des plateaux. écrire de temps en temps une petite
Vous écrivez
blague,
quoi en ce moment?
Écoutez, je travaille sur un projet, mais... Vous savez, comme j'ai du mal à parler du futur, soyons déjà au présent.
Oui, non, mais.
Soyons déjà.
Ça m'arrange,
ensemble.
Ça m'arrange pas.
Vous avez compris que c'était un génie.
Ça m'arrange pas, Jérémy. C'est quoi, long métrage?
Oh, écoutez, ça a à voir avec, ça a à voir avec ce Cinoche. Ce sera, en tout cas, il y aura des émotions. Il y a de fortes chances pour que ce soit en couleur. Et français.
Il y a un peu d'ADN d'Edouard Baird quand même là-dedans.
Au fond, vous n'êtes pas vraiment désireuse de savoir ce que je fais très concrètement.
Soyez honnête. Si, vraiment.
C'est vrai?
Ouais. Pour vous inviter la prochaine fois, j'ai envie de savoir.
Imaginons que c'est un petit cadeau et que c'est une surprise et que ce sera merveilleux le jour où je pourrai vous la faire véritablement.
D'accord.
Sinon, ce serait un peu l'endommager que de vous la raconter aujourd'hui.
Mais quel escroc.
En revanche, je me disais, en parlant d'écriture, Serge Le Mito, c'en est où?
Ah oui, alors moi ça je suis bien d'accord. On rêverait d'un long métrage Serge Lemitreau.
Écoutez, c'est ça va se faire, voilà, tout simplement. Ça a pris un peu de temps, mais on est en train de rebosser dessus là. Voilà.
C'est vrai, pas plus.
Non, pas plus parce que je vais essayer de garder un petit mystère.
Ah, voilà.
Il y aura des émotions. On va tous la faire là. Il y aura des émotions. Il y aura aussi de la
c'est marrant comme Jonathan voit la séduction autrement.
Oui, c'est marrant. Ouais. C'est beaucoup moins.
Ça marche un peu moins bien, Jonathan.
Il y aura aussi Tataillé. Petite marionnette. T'as vu, j'ai mes mains qui s'activent.
Il a besoin de faire des mouvements.
Moi, je nage.
C'est au côté italien.
Bon, en attendant, il y a première vacances en salle mercredi pour de la bonne humeur, de la découverte de l'amour à deux et
des vacances,
du,
des kimonos, des situations embarrassantes, oui.
Des sacoches.
Du, bazar, du kimono et du bazar.
L'anatomie.
Très beau sac.
Des sacoches.
Très beau sac.
Des sacs de sport. Il est temps de nous de vous présenter nos excuses.
Oui,
désolé, Daniel.
Évidemment, désolé déjà pour Jonathan Cohen. J'ai eu la mafia bulgare à la pause au téléphone. Visiblement, certaines de vos vannes, pourtant ciselées, ont déplu et j'ai dû donner votre 06, votre digicode, vos contacts aux Seychelles et le plan de votre appartement. Bon courage. 2019 s'annonce compliqué. Désolé pour toutes les comédies, à la, je citerai Jérémy, les comédies où Monsieur Elgame trouve à chier. Alors, à la pause, j'en ai eu du monde à la pause. J'ai eu Danny Boone, Cadmerat, Franck Dubosc, Olivier Barou. Ils aimeraient beaucoup vous parler. Et enfin, désolé pour les TGV, le saxo, Daniel Balavoine, l'épée, l'accent des touristes israéliens, tout ce que Jonathan Cohen a tenté d'imiter. En même temps, l'humour est un métier à plusieurs niveaux de lecture.
Merci Jonathan Cohen, merci
bravo,
Jérémy
bravo,
Elkaïm d'avoir été avec nous aujourd'hui.
C'était un beau résumé.
Voilà, on finit bien l'année ensemble avec la bande originale. On se retrouve bien entendu demain. Notre invité sera Marie-Agnès Gillot.
Et ce sera un autre délire, je peux vous le dire.
Bon réveillon à vous tous, n'est-ce
à
pas
suivre,
les amis.
Oui, bien sûr, carnet de campagne avec bon Philippe réveillon. Bertrand. Oui, bon réveillon, bien sûr. N'oubliez pas d'être demain à l'heure au rendez-vous avec, comme tu l'as dit, Marie-Agnès Gillot.
Et hydratez-vous.
Non, picolez.
Hydratez-vous, bah voilà.
Bravo.
Merci.